Bonjour, bienvenue pour cette conférence webcast des Key Opinion Leaders, résultats études réflexes 78e semaine. Je m'appelle Molly et je serai ravie de vous recevoir. Cet appel téléphonique va être enregistré. Vous pourrez écouter, mais vous ne pourrez poser des questions qu'à la fin du webcast. Vous pouvez appuyer sur Star Web sur votre clavier pour pouvoir poser des questions. Si vous avez un problème, appuyez sur astérisque 0 et vous serez connecté avec un opérateur pour résoudre le problème. Je vais maintenant passer la parole à Bernard Gilly, membre cofondateur et PDG de Gensight, qui va démarrer cette conférence. Merci.
Thank you, Molly.
Merci, Molly. Mesdames et messieurs, bonjour pour ceux qui sont en Amérique du Nord et bonsoir pour ceux qui sont dans d'autres pays, puisque c'est l'après-midi. Merci de participer à ce webcast KOL consacré aux résultats de l'étude Reflect. Je suis ravie et reconnaissant de pouvoir vous présenter deux experts de renommée internationale qui vous expliqueront en détail les résultats de cette étude de phase 3 Reflect sur l'utilisation de Lumevoc pour le traitement de la NHOL. Le professeur José Alain Sahel, cofondateur de Gensight et professeur d'ophtalmologie à la fac de médecine de l'Université de Pittsburgh, est également le président du centre PMC Eye Center. Ensuite, le professeur Robert Sergotte, professeur d'ophtalmologie et le chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital Wills Eyes Hospital à Philadelphie. Avant de leur donner la parole, j'aimerais néanmoins très rapidement résumer pour vous la situation concernant notre produit Lumevoc. Donc, diapositive suivante. Les résultats de l'étude Reflect que vous voyez confirment pour la toute première fois, et c'est le troisième étude de phase 3, mais confirment pour la première fois l'efficacité et la tolérance de Lumevoc. Ce produit est en cours d'étude par l'Agence européenne du médicament pour une éventuelle approbation. Et nous pensons que nous aurons cette approbation pour le deuxième trimestre de 2022. Entre-temps, bien évidemment, nous avons également commencé à déployer une structure commerciale dans toute l'Europe et en particulier dans les 5 principaux pays européens, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie et Espagne. Également, grâce à ces résultats de Reflect, nous espérons pouvoir avoir une réunion pré-BLA avec la FDA, probablement au dernier trimestre de cette année. Et cela devrait nous ouvrir la voie pour une autorisation aux États-Unis en 2022, deuxième trimestre. Nous avons une demande importante de la part des patients et de la part des praticiens pour avoir accès à Lumevoc. Et pour y répondre, nous avons lancé un programme d'accès en Europe et aux États-Unis. En France, nous avons une ATU. ATU, cela signifie autorisation temporaire d'utilisation. Et nous pouvons ainsi facturer le produit aux hôpitaux et il est remboursé. Et de toute façon globale, il est important de préciser que nous avons déjà traité plus de 50 patients aux États-Unis, en Allemagne, en Italie et en France en moins d'un an, y compris pendant la pandémie liée au Covid, ce qui témoigne de la force de la demande pour un accès précoce au traitement. Voilà, merci. Je vais donc donner sans plus attendre la parole au professeur Sergotte. Merci beaucoup, Bernard. Effectivement, c'est aussi pour moi un plaisir de pouvoir partager avec vous ces résultats pour une maladie rare. Et comme vous le savez certainement, chaque fois que nous faisons un essai clinique, nous en apprenons encore plus. Dans le programme de Gensight pour la thérapie génique pour la NHOL, nous avons énormément appris grâce aux études Rescue et Reverse, et les résultats de Reflect vont nous montrer que les résultats sont confirmés et que cela va même au-delà. On a appris encore plus. La neuropathie optique héréditaire de Leber est une maladie génétique héréditaire rare, produite par la mutation de l'ADN mitochondrial. Et dans cette étude, la mutation 1177A a été remplacée par une injection intravitréenne. On injecte en fait au milieu de l'œil un produit de thérapie génique, ce qui a été réalisé avec un vecteur viral. Et vous voyez sur la diapositive que dans le premier bras de cette étude double masquée, randomisée, contrôlée par placebo, contre placebo, vous pouvez donc voir qu'un patient a reçu une injection dans le premier œil et le deuxième œil a été traité avec le produit, le même produit qui est l'objet de cet essai. Dans l'autre bras de randomisation, et nous allons maintenant vous expliquer justement le résultat sur les 98 patients, la perte de vision depuis moins d'un an, ils sont provenant de centres des États-Unis, d'Europe et de Taïwan. Et donc le deuxième œil a été traité avec Lumivoc, la thérapie génique. Donc, ils ont été traités dans le premier œil et ils ont reçu un placebo dans le deuxième œil. C'est une façon unique de bâtir une étude. Et je voudrais passer une minute ou deux, si vous le voulez bien, pour vous expliquer les résultats, ce que vous allez voir dans cette partie de l'étude. Le placebo que vous voyez en bas à droite, en vert de l'écran. En fait, ce code couleur est très, très important parce que cela permet de se souvenir. Lorsque l'on va vous montrer les résultats, vous comprendrez mieux. Donc, retenez ce code couleur. Vous verrez si, où est-ce que les patients ont commencé en termes d'acuité visuelle et où est-ce que ça s'est terminé pour eux. Et c'est un essai qui est bâti justement pour montrer que le traitement permet de restaurer la vision chez des patients qui étaient légalement aveugles. L'injection de placebo fait appel à un sérum Phi stérile, équilibré, le même que l'on utilise en fait pour la chirurgie ophtalmique. Il ne contient aucun matériau génétique et aucune protéine. C'est très, très important de le préciser. Il faut savoir ce qui est injecté dans les injections de placebo. Lorsque nous commencerons à regarder les données et surtout la sécurité, il faut se souvenir de cela. Comme c'est le cas pour tous les essais cliniques, il y a toujours les deux faces de la médaille. Il faut prendre en considération les deux faces de la médaille, c'est-à-dire l'efficacité et la sécurité, la tolérance. Et en fait, il y a une interaction entre les deux. Diapositive suivante. On va vous expliquer qui sont les sujets. C'est en fait une maladie rare, comme nous l'avons dit, et nous en apprenons chaque jour un peu plus au fur et à mesure que nous avançons dans les essais. Il y a quelques instants, je vous parlais un peu des perspectives. Lorsque je me suis formée dans le domaine de la neuro-ophtalmologie en 1980, nous vérifions toujours l'acuité visuelle avec le type de tableau que l'on vous présente toujours chez l'ophtalmo, mais ce n'est pas ce qui se fait à l'heure actuelle dans les essais cliniques. Aujourd'hui, on vérifie l'acuité visuelle avec une méthode très particulière qui est beaucoup plus précise. Et lorsque l'on a changé de technique, on a vu des résultats différents. Et on a pu suivre les patients de très près, et là aussi, on a vu des résultats différents par rapport à ceux que l'on trouve couramment dans la littérature. Donc nous en avons appris de plus en plus sur cette maladie et chaque essai clinique est véritablement une expérience d'apprentissage pour nous. Vous vous poserez la question, pourquoi 1,5 pour les résultats? Dans Reverse et Rescue, qui étaient les études initiales de phase 3, on avait pris une année comme référence et puis on est passé à une année et demie. Et on a vu des améliorations accrues. Donc ici, on a choisi la durée de 1 an et demi. Les patients vont continuer à être suivis. Et on va probablement par la suite pouvoir vous montrer des données à plus long terme. La thérapie génique, c'est quelque chose de nouveau. Et pour l'instant, on n'a pas tout compris sur la façon dont ça fonctionne, la cinétique d'action, est-ce que le mode d'action est rapide, et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'œil, de la rétine, du nerf optique, comment est-ce qu'ils reçoivent ce traitement, et comment le traitement peut entraîner une amélioration de l'acuité visuelle et de la fonction visuelle pour le patient. Donc 108 patients ont été recrutés, mais 10 ne s'en sont pas qualifiés et n'ont pas été retenus. Donc la population avec l'intention de traiter, qui a été randomisée, était au total de 98, 48 dans le bras injection bilatérale, 50 dans le bras traitement unilatéral. Donc un œil traité et l'autre recevant un placebo. Le nombre de patients disponibles pour l'analyse des critères principaux était de 94 au total, donc 46 dans l'injection bilatérale et 48 dans le traitement unilatéral. Et il y a un patient qui a quitté l'étude, non pas parce qu'il y avait eu des événements indésirables, soit sur le plan de la santé générale, soit sur le plan des yeux, c'était simplement parce que il n'était pas régulier, il ne revenait pas régulièrement pour les rendez-vous de suivi de l'étude et donc il a été perdu de vue. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Cette diapositive vous montre quelles sont les caractéristiques démographiques de la population de l'étude. On a parlé de l'ADN mitochondrial. En fait, l'ADN mitochondrial, on l'hérite de sa mère. Et cette mutation est donc beaucoup plus prévalente chez les hommes que chez les femmes, même si c'est un héritage maternel. À un moment donné, on pensait même que c'était une maladie qui ne touchait que les hommes, à 100%. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose que nous avons appris. C'est une maladie rare, mais qui ne touche pas uniquement les hommes. Au fur et à mesure que l'on a affiné les méthodes de diagnostic et qu'on a mieux étudié la fonction du nerf optique et de la rétine, on en a appris plus. Donc il y a 3 mutations. Ici, nous avons la 11-778, la 14-408 et la 3-640. Donc aujourd'hui, on parlera de la 11-778. Et ce sont des données pour moi révolutionnaires qui pourraient peut-être ouvrir la voie en fait vers d'autres traitements pour les patients souffrant d'autres mutations. C'est de la médecine de précision qui cible avec exactitude le gène qui est responsable de la cécité de ces patients. L'âge des patients était assez équilibré. On avait des âges allant de 41 à 78. Mais il y avait des enfants, de 4 à 78, il y avait donc des enfants, des adolescents, des adultes. Et cela permettait justement d'avoir des résultats intéressants. Et aujourd'hui, un simple examen de sang, lorsque l'on voit un patient, permet de savoir s'il souffre de cette neuropathie. Alors, diapositive suivante. La numéro 8. Vous voyez aussi les caractéristiques des patients au début de l'étude. En fait, il s'agit ici de caractéristiques cliniques. Et au fur et à mesure que l'on avance dans le domaine de la thérapie génique, comme pour d'autres traitements de précision qui ciblent les mitochondries, on va définir de mieux en mieux et avec plus de précision quelles sont les caractéristiques des patients. Pour l'heure, on les définit en fonction de la durée de la perte de vision. Donc la durée de la perte de vision qui est soulignée en jaune, 8,3 mois dans cette étude. Ensuite, on va regarder le premier œil atteint, puis le deuxième œil. Ici, vous voyez le mot LOGMAR. BCVA, en fait, c'est l'acuité visuelle. Et le logmark, c'est une façon d'enregistrer l'acuité visuelle qui permet de faciliter l'analyse statistique. Et on vous expliquera, en fait, on vous le traduira directement en termes faciles à utiliser. Est-ce que on a une amélioration de l'acuité visuelle ou au contraire une diminution? Est-ce qu'il est on chart ou off chart? C'est un système qui a été développé par le professeur Selen aux Pays-Bas au 19e siècle. Donc vous voyez ici le premier œil atteint, 2800. C'est en fait inférieur à ce que l'on avait sur les graphiques. Et la même chose vaut pour, est valable pour le deuxième œil. Le deuxième œil affecté, lorsque les patients sont rentrés dans l'étude, nous avions une acuité visuelle de 2600. Je vous propose de passer maintenant à la diapositive suivante. Et maintenant, nous allons prendre la durée entre le traitement et l'objectif primaire, le critère primaire. Alors, le temps à partir du traitement a été divisé en deux groupes avec une médiane de 20 mois dans le groupe traité bilatéralement. Donc, vous vous souvenez que je vous ai expliqué qu'on avait dans ce cas une injection dans chaque œil et les injections étaient soit séparés, soit exécutés le même jour. Ces patients recevaient donc deux doses de Lumevoc, la thérapie génique. Les autres patients traités en même temps ne recevaient qu'une seule dose, qu'un seul œil était traité. Et l'autre œil était traité avec un placebo, en l'occurrence du sérum physiologique ophtalmique. Je vous propose maintenant de passer à la diapositive suivante, qui sera la 10 puis la 11, puisque la 10 est juste un titre. Et nous allons maintenant rentrer un peu dans le cœur de l'étude, parce que c'est là que vous allez comprendre les résultats, puisque maintenant nous avons un petit peu expliqué de quoi il s'agit, comment l'étude a été bâtie, comment elle a été réalisée. J'aimerais maintenant demander à José Sahel, qui dirige le service d'ophtalmologie de l'Université de Pittsburgh et qui est un expert scientifique à la base de cette thérapie génique, d'intervenir. Merci beaucoup. Oui, je suis ravie de partager ces résultats avec vous. Comme vous l'avez entendu dire par Bob, les patients ont été traités dans le premier œil affecté et la durée moyenne était de 8 mois. Ensuite, le deuxième œil a été déjà affecté ou sur le point d'être atteint. Et vous voyez, vous avez vu sur les courbes que les codes couleurs sont très importants. Donc la courbe rouge, elle correspond au premier œil atteint pour les patients qui sont traités bilatéralement. Et comme vous pouvez le voir, ce graphique montre que leur acuité visuelle est à 1,6 logMAR. Et pendant la durée du traitement, c'est-à-dire 18 mois, ils ont une amélioration en moyenne de 12 lettres de leur acuité visuelle. Et ça, c'est énorme, y compris par rapport à l'histoire naturelle de la maladie que l'on connaît. Ensuite, si l'on regarde l'œil contralatéral de ces mêmes patients, qui peut avoir été déjà atteint au moment du traitement ou qui a été atteint plus récemment, il démarre souvent un petit peu plus haut et il se retrouve avec un niveau d'acuité visuelle similaire à celle du premier œil traité. Maintenant, si on prend les patients qui sont traités unilatéralement, donc un seul œil, ce sont les courbes en vert et vous pouvez voir qu'ils démarrent très bas, comme le premier œil des patients traités bilatéralement. Il y a une petite différence, mais elle n'est pas significative. Et au final, ils ont une amélioration d'acuité visuelle d'à peu près 8 lettres. Donc pas 12 comme l'autre groupe, mais 8 lettres, donc un petit peu moins. Et les patients qui sont traités sur le deuxième œil avec un placebo, en l'occurrence du sérum physiologique, l'œil est injecté, mais pas avec un produit actif. Et il démarre plus bas avec l'acuité visuelle et il se retrouve à peu près au même niveau que l'autre œil. Donc, comme nous l'avons vu dans Rescue et Reverse, les deux yeux vont dans la même direction. Il y a clairement un effet de dose, mais ce n'est pas statistiquement significatif. C'est quand même une différence au niveau de l'acuité visuelle. Et puis ensuite, même si les patients ne démarrent pas tous au même niveau, C'est peut-être aussi ce niveau de départ qui influence le résultat. Mais si on passe à la courbe suivante, donc la diapositive numéro 12, on voit qu'il y a une normalisation. Ici, tous les acuités visuelles de départ sont de zéro. Et ensuite, vous pouvez voir la modification de l'acuité visuelle des quatre populations. Le premier groupe, la courbe rouge, correspond donc aux patients traités bilatéralement, premier œil et deuxième œil. Et là, statistiquement, c'est significatif. L'amélioration est évidente. 0,23 logMAR, c'est-à-dire 12 lettres. Ensuite, deuxième œil du même patient, des mêmes patients. Donc, c'est la courbe jaune. Enfin, orange. Ces patients ont aussi une amélioration de l'acuité visuelle puisqu'ils partent de zéro et ils ont 8 lettres d'amélioration. 0,15 logMAR, c'est statistiquement significatif. Par contre, les patients qui ont été traités sur un seul œil, Lumevoc et de l'autre côté un placebo, ce sont les courbes vertes. La première courbe, le vert foncé, nous voyons une amélioration d'environ 0,15 logMAR, c'est-à-dire 8 lettres à peu près. Et les patients recevant un placebo ont une légère amélioration dans l'œil traité par placebo, mais pas aussi significative. Et c'est le seul groupe où on n'a pas de signification statistique entre le baseline et les 18 mois. Donc les trois groupes d'yeux qui ont reçu le traitement ont une amélioration significative, statistiquement significative. Et cette amélioration est moins importante dans le groupe placebo, dans les yeux placebo, mais comme nous l'avons vu, tous les yeux vont quand même tendanciellement dans la même direction, ce qui confirme ce que l'on avait constaté avec les études Rescue et Reverse. Reverse, pour vous le rappeler, est plus semblable, 18 mois entre 6 et 12 mois, et Rescue, c'est plus semblable au deuxième œil, en tout cas pour certains d'entre eux. Si l'on compare les courbes que l'on a déjà fait voir dans différentes publications scientifiques, les effets sont significatifs, mais ils se regroupent pour les deux yeux, ce qui explique que nous avons appris un certain nombre de choses depuis et nous avons montré que le traitement bilatéral, enfin l'efficacité bilatérale est réelle et que le traitement bilatéral donne un effet supérieur par rapport au traitement unilatéral. Ce qui nous amène à la diapositive semblable, suivante, où nous voyons les mêmes chiffres. Les patients qui sont traités bilatéralement avec Lumevoc, le premier œil atteint, l'amélioration est de 0,23 logMAR, c'est-à-dire 12 lettres, c'est très significatif. Le deuxième œil atteint a une amélioration de 8 lettres, donc c'est-à-dire 0,15 logMAR, là aussi c'est significatif. Le premier œil traité atteint et traité dans l'autre groupe et s'améliore de 0,15 logMAR, donc 8 lettres. Et l'œil traité par placebo a une amélioration, mais elle n'est pas significative sur le plan statistique. Donc clairement, les résultats confirment ce que nous avons déjà constaté dans les études Rescue et Reverse, mais nous apportent aussi des démonstrations que traiter bilatéralement du fait d'un effet de dose est plus bénéfique pour les patients, en tout cas pour ce qui est de la tendance. Maintenant, si l'on prend la comparaison par rapport à ce que l'on appelle le nadir c'est un terme qui est utilisé dans ce domaine, les patients continuent à perdre de l'acuité visuelle dans un premier temps parce que le temps avant que le traitement soit efficace existe, ce n'est pas immédiat. Et on voit la différence entre le nadir, c'est-à-dire le point le plus bas de l'acuité visuelle et le point final. Et on est ici à 0,3 logMAR, donc 37 logMAR, plus de 19 lettres, c'est énorme. Et le deuxième œil, on est à 0,31 logMAR, donc 16 lettres d'amélioration, là aussi c'est quand même très significatif. Premier œil traité avec Lumevoc dans le groupe de traitement unilatéral, là aussi on a une amélioration de 19 lettres, donc c'est énorme par rapport au nadir. Et il faut normaliser par rapport au nadir pour voir les différences. Et l'œil traité par placebo, il y a un effet, mais encore une fois, en fait, l'œil traité par placebo bénéficie de la diffusion bilatérale du vecteur, comme nous l'avons montré récemment dans les publications. Donc tous ces résultats confirment ce que l'on avait vu jusqu'à maintenant, et l'on apporte simplement plus de preuves scientifiques sur le fait que le traitement bilatéral donne de meilleurs résultats par rapport au traitement unilatéral. Et je vais redonner la parole à Bob pour l'analyse des répondeurs. Et c'est important parce que il y a peut-être des patients qui répondent très bien et qui encouragent la réponse, mais en réalité, non, ce n'est pas vrai. La vaste majorité des patients de l'étude répondent au traitement. Merci, José. On va maintenant parler justement des répondeurs. Ça, c'est une analyse statistique des patients qui ont vu leur acuité visuelle s'améliorer. Et comme nous l'avons dit précédemment, lorsque nous parlions du fait que les patients, à un moment donné, n'étaient même plus capables de lire des lettres sur un tableau. Eh bien, aujourd'hui, on est passé de 2800 à 2600 en moyenne pour démarrer d'acuité visuelle. Alors, maintenant, on voit que les patients reviennent après l'injection et leur acuité visuelle est vérifiée par des opérateurs que nous avons et qui sont en masqué, c'est-à-dire ils ne savent pas si le patient a reçu un placebo ou une injection bilatérale de Lumevoc. Ils sont en aveugle. Tout est fait maintenant sans qu'il y ait le moindre biais. Donc les ophtalmologistes qui voient le patient ne sont pas les investigateurs principaux qui ont vu les patients pour démarrer. C'est en fait quelqu'un d'autre qui vient participer, donc qui est en aveugle, qui est en masqué par rapport au traitement, ne savent pas qui a reçu un placebo et qui a reçu le traitement dans le deuxième œil pour éviter les biais. Et si vous reprenez les codes couleurs, vous voyez en rouge que 68% des patients qui ne pouvaient plus lire une lettre sur le tableau. En ophtalmologie, on dit qu'ils peuvent à peine voir les doigts qu'on tient devant leur visage, éventuellement un mouvement de la main, ou à la limite, ils ne voient même plus que la lumière. Et 68% des patients qui en étaient donc à ce stade-là, qui ne pouvaient même plus lire de lettres, sont revenus « on chart », comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'ils peuvent de nouveau lire une lettre, des lettres sur un tableau. Et si l'on suit le code couleur, vous vous souvenez que le premier œil est injecté, le deuxième œil est injecté. Le premier œil injecté en vert foncé reçoit le traitement. Et donc l'injection de placebo ne donne aucun effet. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous avons vu qu'il y avait néanmoins une amélioration bilatérale du deuxième œil, tout le monde s'est posé la question et c'était justifié. Est-ce que c'est juste le patient qui fait un effort pour lire ou est-ce que c'est vraiment un effet du traitement de l'autre œil? Et on constate le même effet bilatéral dans 3 études indépendantes et 30 centres indépendants dans le monde ont participé à ces études et ils ont constaté la même chose. Donc on ne peut plus dire que c'est simplement un effet psychologique et que le patient essaye vraiment de lire et fait plus d'efforts. Quand on voit le niveau d'amélioration qui est quand même de 15 lettres dans le deuxième œil, les personnes avec qui nous travaillons à l'AME, à l'Agence européenne des médicaments ou à la FDA, 15 lettres d'amélioration, c'est énorme. Cela permet de nouveau de relire des lettres. Donc, je vous propose maintenant de passer à la diapositive suivante, c'est-à-dire le taux de réponse par rapport au nadir. Et c'est clairement expliqué ici. Le traitement est administré, ça prend quelque temps avant qu'il ne soit efficace. Donc, dans un premier temps, l'acuité visuelle diminue encore, mais petit à petit, progressivement, elle remonte. Et je voudrais attirer votre attention sur la ligne concernant les répondeurs dans les traitements bilatéraux et les traitements unilatéraux. Et nous voyons ici une récupération cliniquement pertinente sur 69% des patients en traitement bilatéral et 62% en traitement unilatéral. Et donc le taux de réponse est de 1, le odds ratio est de 1,31. La diapositive 18 prend les mêmes données pour présenter en fait l'amélioration de 0,3 logmar à partir du nadir, c'est-à-dire 3 lignes de vision, 15 lettres d'amélioration. Lorsque les patients sont examinés au bout d'un an et demi, et là aussi les résultats sont totalement similaires, 69% dans les injections bilatérales, 64% dans le traitement unilatéral. Diapositive suivante, la 19. Nous voyons que si le patient est on chart, c'est-à-dire qu'il peut lire des lettres, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait voir ce problème, comme l'a dit José, sous un angle spécialisé, c'est-à-dire il faut normaliser les courbes. afin de bien voir les différences entre les patients. Et c'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure les différences dans les analyses moyennes et les analyses moyennes carrées. Si on essaye de stratifier les patients selon qu'ils sont on-chart ou off-chart, on-chart, ils ont une acuité visuelle meilleure, c'est évident. Et moi, dans ma pratique clinique, au fil des années, j'ai constaté que... On essaye de comprendre quelles sont les maladies qu'il faut traiter un peu plus tard, c'est-à-dire la sclérose en plaques, par exemple. Et lorsque l'on traite, ce n'est pas simplement une question de durée de temps, mais dans certaines maladies, plus la maladie est aggravée et plus les résultats seront impressionnants. Et ici, si les patients étaient on chart, on avait 85% de taux d'amélioration. Et 72% dans le traitement unilatéral. Et le odds ratio augmente et monte à 2,24. Dernier point dont nous allons parler avant de passer aux questions-réponses. Il s'agit de la tolérabilité, de la sécurité. Parce que dans chaque essai clinique, on prend toujours en compte l'efficacité, nous venons d'en parler, mais également la sécurité, l'innocuité du médicament. Nos partenaires, les administrations qui réglementent l'utilisation des médicaments, doivent informer les patients et les cliniciens sur les éventuels effets secondaires et ce à quoi on peut s'attendre avec un certain traitement. Donc, côté sécurité... Je vais vous dire que nous n'avons constaté aucun événement indésirable systémique, aucun problème au niveau de l'organisme du patient, le cœur, les poumons et le foie. Aucun effet systémique. Tous ces organes ont été surveillés de très près, ce qui est toujours le cas d'ailleurs dans ce type d'études, et il n'y a eu aucun effet indésirable. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau des yeux ? Ici, nous avons les effets secondaires liés au traitement. Et nous allons les diviser en catégories légers, modérés et sévères. C'est comme cela que l'on caractérise les événements indésirables. En tout cas, c'est comme ça que les réglementent les agences réglementaires. Et sur la première ligne, vous voyez que dans le premier œil, nous avons 44%. Et ça, c'est une information que l'on a constatée dans la plupart des cas. Ce que l'on appelle, par exemple, une uvéite. Et nous pouvons voir un effet bilatéral. Et je voudrais attirer votre attention un instant sur l'œil traité par placebo. Parce que vous voyez que là aussi, on a une sorte d'inflammation, une uvéite. Et si l'on stratifie les résultats entre légère, modérée et sévère, vous voyez que le comportement est à peu près le même dans l'œil placebo. Donc c'est un œil qui n'a reçu que du sérum Phi, qui n'a pas reçu les traitements par thérapie génique, pas d'ADN mitochondrial, pas de protéines, uniquement du sérum Phi. Et pourtant, il y a une présence d'inflammation. Ce qui nous ramène... à la controverse concernant cet effet, ce fameux effet bilatéral. Quelque part, il y a une raison qui fait que le deuxième œil traité par placebo montre des signes d'inflammation. Après, on peut en discuter pour savoir si l'inflammation vient parce que justement une partie de la thérapie génique a circulé dans le sang et a atteint le deuxième œil, mais on ne voit pas d'événements indésirables au niveau systémique. Des professeurs David Cochrane et Vanderbilt ont travaillé sur des situations expérimentales avec les animaux et ont montré que le gène peut effectivement migrer d'un œil à l'autre par le biais du nerf optique et même aller jusqu'au cerveau, dans le thalamus. Et donc, non seulement on a un effet bilatéral sur l'acuité visuelle, mais on a un effet bilatéral également sur l'inflammation. À mon sens, cela ne fait qu'en fait confirmer qu'il y a une partie de la thérapie génique qui va vers l'œil non injecté, non traité. Diapositive suivante. L'inflammation intraoculaire a été traitée. Nous traitons ces patients avec des corticoïdes topiques. Lorsque c'est nécessaire, parfois, on utilise des corticoïdes par voie orale pendant une brève période. Et ils ont bien répondu. Et nous voyons donc l'inflammation antérieure dans le vitré et dans la région postérieure de l'œil également, juste au-dessus de l'œil du nerf optique et de la rétine. Et à l'avenir, on va étudier avec plus d'attention cette réaction inflammatoire. Parce que justement, cela va peut-être nous aider à comprendre qui sont les répondeurs et qui sont les non-répondeurs au traitement. Donc pour résumer, sur le point de la sécurité, avant tout, aucun effet indésirable sur les autres organes, aucun effet indésirable systémique. Lorsque l'on injecte une protéine, une thérapie génique dans un œil, on s'attend souvent à ce qu'il y ait une inflammation dans l'œil qui a été injecté. Par contre, ce que l'on ne s'attendait pas à voir, c'était l'inflammation dans l'autre œil qui n'avait pas été injecté. Mais dans les deux cas, l'inflammation a très bien répondu aux corticoïdes, n'a pas eu de problème pour contrôler l'inflammation. On les a traités exactement comme on traiterait un cas d'uvéite en pratique clinique. Je vous propose maintenant de passer à la diapositive de synthèse. Et je vais demander à José de revenir pour nous parler de cette synthèse. Donc José, je vous propose de nous faire la synthèse sur ce que nous ont démontré les données d'efficacité et de sécurité de l'étude. Oui, merci beaucoup Bob. Effectivement, nous avons donc la confirmation de ce que nous savions déjà grâce aux études Reverse et Rescue, à savoir que l'acuité visuelle s'améliore grâce au traitement Lumevoc par rapport à la baseline et au nadir, et c'est même encore plus marqué par rapport au nadir. L'effet contralatéral dans l'œil traité par placebo a également été confirmé, nous l'avions déjà observé dans Reverse et Rescue. Mais c'est la première étude qui va vraiment dans la même direction, ce qui veut dire qu'il n'y a pas simplement ici un effet de l'apprentissage ou une amélioration non expliquée de l'acuité visuelle dans l'œil non traité. Clairement, il y a une diffusion bilatérale du vecteur, comme nous l'avons déjà montré, qui amène une amélioration de l'acuité visuelle. Ensuite, dans cette étude, nous démontre également que le traitement bilatéral est quand même plus bénéfique que le traitement unilatéral et que les traitements traités bilatéralement ont une plus grande amélioration de leur acuité visuelle, même si elle n'est pas statistiquement significative, mais ils gagnent une ligne, et une ligne, c'est important. Et l'on sait que, tendanciellement, on va vers une amélioration continue. Le profil de sécurité est très bon, zéro effet indésirable important, tous les effets indésirables ont été traités facilement, le profil de sécurité est comparable entre les traitements unilatéraux et bilatéraux, ce qui ne surprendra personne, même si l'on voit une diffusion du vecteur dans le deuxième œil non traité. Donc cette étude non seulement confirme, mais elle renforce même la valeur du traitement pour les patients. On parle d'une maladie qui jusqu'à maintenant n'avait pas de traitement, il n'y avait aucun espoir d'amélioration pour les patients et quelques petits pourcentages qui s'amélioraient spontanément, ce que l'on a vu dans les études sur l'histoire naturelle. Mais là, aujourd'hui, on sait que maintenant, on a un espoir pour traiter ces maladies, un espoir vraiment important parce que on double l'angle visuel, donc on a une amélioration de l'acuité visuelle vraiment considérable. Merci pour votre attention. Bernard, oui, on va maintenant répondre aux questions. Merci infiniment, Bob et José, pour cette explication très détaillée. Ça fait beaucoup d'informations, effectivement. Et nous allons, dans un premier temps, prendre les questions orales. Y a-t-il des questions? Oui, il y en a quelques questions. Si vous souhaitez poser une question, appuyez sur StarWeb sur votre clavier. Une question de Tel Aviv. Merci beaucoup de prendre ma question. En fait, j'ai trois questions. Première question, l'évaluation de la qualité de la vie. Je crois que c'était un critère secondaire dans l'étude. J'aimerais comprendre si vous avez appris des choses importantes. Ensuite, les marqueurs anatomiques. Je crois qu'il y avait des choses qui avaient été faites dans Reverse et Rescue. Avec une population plus importante ici, vous avez peut-être vu une influence majeure. Et ensuite, la sécurité. Et quelle est la perception des agences réglementaires concernant la sécurité? Vous voulez que je commence? Oui, José, allez-y. Concernant la sécurité, on parle d'une injection intravitréenne. Donc, on a une perte de fonction dans le temps liée à l'injection intravitréaire. De toute façon, pour Sterna, le vecteur était le même. Donc, c'est le même vecteur que pour l'Humivoc, après bâti différemment. Mais là, on parle dans une injection intraorbitale qui est une injection plus sûre et plus facile. Concernant la sécurité et l'inflammation, Bob nous l'a clairement expliqué. Le profil de sécurité concernant l'inflammation est très, très bon. Donc, c'est un médicament qui est sûr. Je ne veux pas comparer avec des maladies qui sont différentes et des approches qui sont différentes, mais c'est certainement un très bon traitement. Concernant la qualité de la vie, les analyses sont en cours. Vous savez, nous avons publié des données de Rescue Reverse et l'amélioration de la qualité de la vie avec différents paramètres de mesure, 74, qui montrent une très bonne tendance concernant l'amélioration de la qualité de la vie, puisqu'on parle de patients qui sont off-chart et qui reviennent on-chart, c'est-à-dire qui ne pouvaient plus lire et qui voyaient à peine la lumière et qui redeviennent capables de lire. Donc, ils ne récupèrent pas 100%, mais ils ont une acuité visuelle bien meilleure. Et on a des anecdotes, et je peux vous dire qu'ils sont tous capables de raconter des anecdotes pour vous dire qu'ils refont des choses qu'ils ne faisaient plus et que leur qualité de la vie est nettement améliorée. Pour Reflect, l'analyse est en cours, donc cela va être fait dans les semaines à suivre et les semaines à venir, et il y aura une publication dans les publications scientifiques. Deuxième partie de la question concernant plutôt le domaine d'expertise de Bob, donc je lui passe la parole. Oui, merci pour cette question concernant les repères et les mesures anatomiques, c'est en particulier avec l'OCT. Clairement, là, cela n'a été introduit dans la pratique clinique que depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est bien meilleure que celle qu'on avait à l'origine. Avec l'OCT, on peut mesurer le nombre de fibres tout autour du nerf optique, les fibres rétiniennes, et puis l'on peut mesurer l'épaisseur également des couches de la rétine. Et lorsque la mutation frappe, en fait, c'est dans la région des cellules ganglionnaires. Et ça, c'est quelque chose que l'on a appris. L'OCT, les données OCT sont encore en cours d'analyse pour l'étude Reflect. Mais pour ce qui est de Rescue et de Reverse, je peux vous dire que, enfin, ça, c'est mon impression. Moi, j'ai interprété presque tous les clichés OCT de ces études, sans aucune connaissance du fait que les patients avaient reçu l'injection de placebo ou au contraire les injections bilatérales. J'étais en aveugle. Et la tendance que j'ai observée était que dans les yeux traités par placebo, il y avait une détérioration continue des cellules ganglionnaires rétiniennes. Et dans certains des yeux qui s'amélioraient, on voyait un épaississement de la couche des cellules ganglionnaires. Et surtout, en tout cas c'est mon impression, jusqu'à maintenant, le plus, il faudra qu'on attende les résultats des analyses finales, mais le plus souvent on assistait à une stabilisation. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de détérioration de l'épaisseur de cette couche. Alors c'est un marqueur anatomique, vous l'avez dit vous-même. Et aujourd'hui, on sait comment étudier le métabolisme des mitochondries. Il y a d'autres analyses qui seront réalisées au niveau de ces marqueurs métaboliques. Il y a de fortes chances qu'ils soient disponibles dans les 6 mois à peu près. Vous vous souvenez, je vous ai dit que même pour les mitochondries, on va en apprendre de plus en plus. On sait qu'elle, jusqu'à maintenant, on pensait qu'elle ne faisait que produire de l'énergie, mais aujourd'hui, on sait qu'en fait, elles font autre chose. Elles interagissent avec les cellules du réticulum endoplasmique. Elles participent au métabolisme du calcium. Et l'ADN mitochondrial peut être un activateur immunologique. Donc c'est vraiment un travail absolument fascinant et on en apprend de plus en plus. Et au fur et à mesure que la technologie s'améliore et que l'on peut collaborer avec des sociétés justement qui innovent comme GestSight, on aura de plus en plus de possibilités de traiter ces patients. Y a-t-il une autre question? Oui. Prochaine question, René Wojtek. Merci beaucoup pour m'avoir donné la possibilité de poser cette question. Merci pour les informations. Moi aussi, j'ai plusieurs questions. J'aimerais commencer par une question pour les KOL. Pouvez-vous commenter la façon dont ces résultats se comparent avec ce que vous avez vu dans l'histoire naturelle de la maladie? Et est-ce que vous pensez que l'acuité visuelle va continuer à s'améliorer avec le suivi à long terme? Ben, les analyses sont en cours. Tous les patients n'ont pas été traités le même jour, donc certains ont déjà un suivi plus long que d'autres. On voit déjà une tendance qui se définit, que l'on avait déjà eue avec Reverse Rescue. Clairement, l'amélioration continue dans le temps, mais bon, ce ne sont que des données préliminaires. Peut-être que Magali ou Bob souhaiteraient commenter. Pour l'instant, les données sont en cours d'analyse, mais on voit bien qu'on va tous dans la même direction que Reverse et Rescue, c'est-à-dire une continuation de l'amélioration dans le temps. Et là, on parle de patients qui ont été traités il y a 18 mois, mais certains même un petit peu plus longs. Magali? Oui, oui, tout à fait. On a même, on va bientôt avoir les résultats à 2 ans, la fin de l'année, là. Et les tendances sont clairement positives. Vous savez que certains patients ont été revus au bout d'1 an et demi et les analyses sont en cours. Et elles vont dans le sens d'un effet prononcé et continu dans le temps, comme on l'avait déjà d'ailleurs constaté avec Reverse et Rescue. Oui, l'histoire naturelle. Et encore une fois, je vous ai dit qu'on en apprend tous les jours et on voit une amélioration spontanée. Plutôt dans la mutation 14-404. Dans la 11-778, oui, effectivement, il y a une amélioration spontanée, mais elle est rare. Moi, je suis neuro-ophtalmologue depuis 40 ans maintenant, et je compte sur les doigts d'une main, et encore, le nombre de patients qui sont revenus me voir en me disant « ça va mieux ». Donc, il y a quelques rares cas d'amélioration spontanée, mais je crois que nos données montrent essentiellement que l'expérience clinique de nous tous nous a démontré que c'est un cas extrêmement rare. Et les résultats que nous avons aujourd'hui vont bien au-delà du taux d'amélioration spontanée que nous avions dans le passé. Bien sûr, c'est très utile. Une autre question pour la société. Donc, techniquement, pour l'instant, l'étude n'a pas atteint son objectif primaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme commentaire sur ce que sera la portée de la discussion avec la FDA dans la réunion pré-BLA? Est-ce que vous allez passer en revue l'étude des trois, les résultats des trois études, ou est-ce que vous allez vous concentrer sur le résultat de Reflect lors de cette entrevue? Et sachant que ce sont ces résultats, est-ce que vous allez regarder d'autres mutations qui peuvent être à l'origine de la NAOHL, puisqu'on a dit qu'il y avait éventuellement d'autres mutations, ou est-ce que vous allez vous concentrer sur celle-ci pour l'instant? Merci, je vais répondre à la question. Oui, bien sûr. Nous allons en parler avec la FDA en emmenant toutes les données que nous avons à notre disposition. Parce que toutes les données ont été rappelées par Bob et José et elles sont les mêmes dans les trois études de phase 3. Il y a vraiment une cohérence dans les données entre les trois études de phase 3. Et puis nous avons également des données très intéressantes qui joue un rôle clé dans la discussion avec la FDA, parmi lesquels le fait que l'œil traité par placebo n'a pas une amélioration de l'acuité visuelle à partir de la baseline significative sur le plan statistique. Alors, c'est le cas dans les injections bilatérales. Si vous regardez la différence entre l'œil traité et l'œil placebo, on voit clairement la différence. Et de la même manière, on sait tous que c'est important pour la FDA, il y a un effet dose. Le traitement bilatéral donne de meilleurs résultats que le traitement unilatéral, c'est évident et c'est important. Donc on va en parler avec la FDA et effectivement, on emmène avec nous toutes les données. Concernant la suite du développement chez GenSight, pour l'instant, on n'investit pas sur d'autres programmes parce que pour l'instant, on concentre nos ressources sur l'approbation de Humevoc et la mise sur le marché de Humevoc sur le marché européen et américain. Et le reste des ressources sur le GS30 qui a déjà montré d'excellents résultats jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une autre question. Avant de passer à la question suivante, je vous rappelle que si vous voulez passer une question, vous tapez étoile 1 sur votre clavier. Question suivante, Simiat Devani, qui appelle AXR Security. Bonjour, merci de répondre à ma question et merci d'avoir organisé cette conférence téléphonique. J'ai trois questions. Vous avez découvert grâce à cette étude que les injections bilatérales donnent un meilleur résultat. Est-ce que vous allez envisager des doses plus élevées? Est-ce que vous allez les étudier? Et concernant l'analyse sur les répondeurs, vous partez du nadir. Mais dans le plan statistique, est-ce que c'est pré-spécifié ou est-ce que c'était une analyse a posteriori, rétrospective? Et lorsque vous injectez bilatéralement, est-ce que vous injectez les deux yeux en même temps? Qui veut répondre à ces questions? Je peux commencer. L'analyse du taux de répondeur était prévue dans l'analyse statistique à l'origine. Et j'ajouterais que la comparaison par rapport à l'histoire naturelle et les témoins externes était aussi prévue à l'origine. Sous ces analyses statistiques ont été validées par la FDA à l'avance, avant même que l'on analyse les résultats. Concernant les doses, les niveaux de doses, je crois que le choix de la dose dans notre étude de phase 3 sur l'efficacité est confirmé. Les résultats que nous avons obtenus confirment que c'était la bonne dose. Clairement, je pense que nous avons trouvé le meilleur rapport risque-bénéfice pour les patients, donc il n'y aurait aucune raison de changer la dose. Mais on peut continuer à recommander l'injection bilatérale car le ratio bénéfice-risque est plus élevé. La sécurité dans l'injection bilatérale est le même que pour l'injection unilatérale. Et puis, vous avez posé une question concernant le moment de l'administration du traitement. Les patients ont reçu donc le traitement dans les deux yeux, mais ça dépend. Dans certains cas, le même jour. Dans certains cas, deux jours différents. Merci beaucoup. Je crois qu'on n'a plus de questions. Et j'ai, moi, une première question écrite. La question est, quels sont les bénéfices de la prescription d'idébenone, Raxone, avant l'injection de Humevoc. Magali, vous pouvez peut-être répondre. Eh bien, nous avons des patients qui ont été traités par Raxone et qui ont eu une utilisation exceptionnelle. Et là, évidemment, c'est complètement différent. Il n'y a pas de raison d'arrêter le Raxone. Donc on a effectivement certains cas, mais pour ces patients, en règle générale, ils tendent à ne pas répondre au Rexone et justement ils basculent sur l'ATU en France. Donc on peut effectivement traiter avec les deux médicaments pour les mutations. Oui, mais non, mais dans l'étude, on ne pouvait pas avoir les deux médicaments en même temps pour justement éviter les éléments confondants. Mais après, il n'y a rien qui l'empêche en dehors de l'étude. Autre chose que j'aimerais souligner, tous les résultats de Rexone englobent les trois types de mutations, y compris celles dans lesquelles on observe des améliorations spontanées. Donc je ne dis pas que le médicament n'est pas efficace, mais on regroupe trois groupes de patients. Ici, on parle des mutations les plus graves. Donc rien n'empêche de combiner les deux, mais l'étude ne visait qu'à comparer avec un placebo et pas avec un autre médicament. Au moment où on a commencé l'étude, et encore plus à plus forte raison maintenant, on sait que le médicament fonctionne bien seul. Donc on ne veut pas risquer de le mélanger avec un autre médicament. Je ne sais pas si Bob veut apporter un autre élément. Moi, je n'ai rien contre le Rexone, mais c'est un médicament qui n'est pas approuvé aux États-Unis. Donc moi, je ne l'ai pas utilisé. Merci beaucoup. Il y a une deuxième question. Quelles sont les différences principales en matière d'efficacité, s'il y en a, par rapport aux études Reverse et Rescue? Ceux d'entre vous qui se souviennent des données Reverse ou Rescue, vous voulez répondre, José ou Magali? Mais le premier œil traité, on est assez semblable aux données de Reverse parce que c'est à peu près le même cadre temporel, entre 6 et 12 mois. Donc les données vont dans la même direction. Le deuxième œil traité, certains patients répondent plus ou moins par rapport aux autres. De toute façon, le cut-off est un peu artificiel, mais c'est assez semblable. Les courbes ont tendanciellement la même forme. Et simplement, dans Rescue, on voyait des courbes parallèles par rapport au Nadir. Mais Magali a fait pas mal d'analyses. Il y en a peut-être d'autres qui sont en cours. Donc, si Magali veut ajouter quelque chose... Oui, merci, José. Les analyses sont en cours, effectivement, mais à l'heure actuelle, il apparaît clairement... Et je voudrais le souligner que lorsque l'on prend les patients traités bilatéralement, on est seulement à 1,5 ans de suivi, mais l'effet est bon, très bon. Et l'effet dose que l'on observe entre les patients traités bilatéralement et unilatéralement s'observe également dans Reverse et Rescue. Et les patients traités unilatéralement de Reflect se comporte comme ceux de Reverse et Rescue qui étaient traités unilatéralement. Donc il y a une cohérence en matière de résultats entre les trois études, Reflect, Reverse et Rescue. Merci, je crois qu'on aurait encore le temps pour une toute dernière question. Mais je crois que c'est une question qui est longue, je vais peut-être essayer de la résumer. Il s'agit... PA et des relations avec la FDA. Je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais peut-être que Magali peut ajouter quelque chose. Comment envisager des interactions avec la FDA, la SPA ne semble plus être pertinente. Donc, est-ce que vous allez utiliser l'histoire naturelle aussi comme en Europe? Oui, bien sûr. C'est une excellente question. Comme nous l'avons dit, nous avons ajouté dans notre analyse, notre plan d'analyse statistique, comparaison indirecte par rapport à un groupe témoin externe composé de patients chez lesquels on a observé l'histoire naturelle de la maladie. Et cet plan d'analyse statistique a été validé par la FDA. Donc lorsque l'on va se réunir avec les agences de réglementation et avec le personnel de la FDA, nous présenterons tout le package de données. Les résultats de Reflect, la comparaison avec l'histoire naturelle et la cohérence des résultats concernant l'efficacité et la sécurité de l'UNIVEC avec les deux autres études Reverse et Rescue. Et voilà, je crois qu'on a presque terminé. Donc une toute dernière. Nous avons encore quelques secondes pour une dernière question écrite, si je peux la visualiser. Oui, c'est une question qui n'est pas directement liée à Reflect. Il s'agit du financement jusqu'à 2023. Pourquoi une augmentation de capital à la fin de l'année? Non, désolé. Non, désolé, j'ai perdu la question. Non, malheureusement, j'ai perdu la question. Alors, j'en ai une autre. Efficacité de l'UMEVOC qui valide le concept de la technologie de séquençage qui cible les mitochondries. Est-ce que vous avez commencé à parler avec d'autres sociétés pour un éventuel partenariat concernant ces technologies pour étudier des applications à d'autres maladies mitochondriales? Oui, la question est effectivement une excellente question. Nous n'avons pas encore beaucoup investi parce que, ben, il faut bien qu'on attribue nos ressources. Dès que l'on pourra, dès qu'il y aura un produit sur le marché, évidemment que nous envisagerons d'autres maladies, y compris des maladies de la rétine, d'autres maladies de la rétine. Je vais donc devoir clore ce webcast. Je remercie Bob et José pour leur présentation et pour nous avoir consacré du temps. Et je vous remercie d'avoir participé pour votre attention. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.